Audrey Pinchot, salut!
Bon matin!
Ça va bien? Il fait beau?
Ça va très bien!
Bon!
T'as pas d'humeur, toi? T'as l'air... T'es-tu pas d'humeur,
Oui, ça va bien!
Ouais?
Oh, oui, très bien!
OK!
Oui!
J'ai pas pogné le début de l'émission, mais je te sentais...
Tu me sentais quoi?
Je sais pas, comme d'habitude!
OK! Mais non, ça va, il fait beau.
Ben, honnêtement, ça fait du bien. Ça fait quelques jours là, qu'on a le ciel un peu plus dégagé, puis tu vois que ça joue sur le moral des gens, effectivement.
Hier, j'étais allé jouer au hockey dehors, c'est une patinoire extérieure. J'avais pas fait ça depuis des années. Ça m'a fait du bien. Je pense que j'y retourne après-midi.
Est-ce que c'est une des patinoires qui va fermer?
Non, mais mettons que c'est une qui reste à l'avenir. Il pourrait peut-être en prendre un peu plus soin.
Ah ouais,
il y aurait rien à faire là. T'sais, patiner, ça va. Aussitôt que tu essaies de dribbler un peu avec la rondelle, là,
ça marche pas.
Rien à faire. Il y a des coches. Fait que si c'en est une qu'on garde, ce serait le fun de la garder en meilleure qualité.
D'en prendre soin un peu plus.
Ouais.
Et ça fait un gros dossier quand même pour la Ville de Québec à gérer.
Pas pire.
Ce matin, dans l'open mic, Max, je t'amène dans un sujet qui risque de toucher, évidemment, pas mal tout le monde dans l'auditoire, parce que je pense qu'on connaît pas mal tous quelqu'un de proche ou de loin qui, en vieillissant, a une maladie des fois dégénérative au niveau cognitif, comme l'Alzheimer, par exemple. Et c'est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Puis souvent, quand on parle de ce sujet-là, on va parler de la maladie en soi, de quelqu'un qui en souffre, mais on parle rarement des proches aidants, de la famille, des amis, des gens autour qui écopent un peu de cette maladie-là. Puis là, peut-être que je suis complètement égoïste de le voir comme ça, mais moi, dans ma tête, quelqu'un qui a l'Alzheimer, à un certain moment, le pire, c'est pour sa famille, c'est pas pour la personne qui est atteinte. T'sais. La personne qui est atteinte, à un certain niveau, à la limite, elle s'en rend même pas compte. Mais pour la famille, c'est difficile. Puis c'est un sujet qui m'a quand même accroché parce que nous, pendant le temps des fêtes, il y a quelqu'un proche de moi qu'on a remarqué qui commençait à avoir certaines pertes cognitives. Et il y a en ce moment des démarches qui se font pour faire des tests cognitifs pour voir si c'est juste un bout de vie ou s'il y a peut-être quelque chose qui s'installe un peu plus, tu sais. Puis c'est des questions que beaucoup doivent se poser. Puis le temps des fêtes, bien, c'est comme un temps où on dirait que tu le remarques plus parce que là, t'es en famille, t'es une couple, ça se raconte des histoires, ça prend des nouvelles. Puis c'est souvent là que t'es capable de remarquer, mettons, ah, bien, grand-maman, elle,
mais après le souper, tu jases, puis tu dis... Ouais, t'as-tu remarqué, toi, que...
Exact. Et là, il y a un outil québécois qui est sorti pour aider les proches aidants. Puis je trouve ça intéressant parce que je savais pas que ça existait. Fait que je me dis, si nous autres, qui est tout le temps dans les nouvelles, dans l'actualité, dans les communiqués, puis si moi, je connais pas ça, on doit être une gang à pas savoir c'est quoi.
En effet.
Ça s'appelle Mémo. Et pour en parler aujourd'hui, on accueille Nathalie Paré, qui est présidente du groupe Patrimoine et cofondatrice de Humanity, qui va nous jaser un peu de ça, le mois de la sensibilisation de la maladie à l'Alzheimer, mais surtout de la boussole de la mémoire qui s'appelle Mémo. Nathalie, bon matin.
Bon matin. Bon matin à tous.
On peut se prendre le temps un peu d'en jaser. Puis si vous avez des questions, 88-971-1021 en passant. Là. Nathalie, on est dans le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Quand on parle de la maladie, on oublie souvent de parler des proches aidants.
Oui, tout à fait. Puis les proches aidants font tellement partie du processus. Là. C'est des membres importants pour le cheminement puis pour le parcours.
Oui, bien c'est des gens qui vont accompagner souvent jusqu'à la fin aussi, qui vont subir, j'ai l'impression, même plus que... J'ai-tu raison de dire ça, que souvent ces gens-là vont subir plus que la personne qui le vit?
Ça dépend où est rendu le processus de la maladie. Je te dirais qu'il compense beaucoup. Il compense beaucoup le manque de la personne, hein, parce qu'il essaye de combler souvent les manques pour essayer d'attendre avant de lever la main et puis de dire hey, « on a besoin d'aide ». Parce que tu ne veux pas faire face à ça. Hein? Tu veux le repousser.
On est dans le déni. Hein?
On est beaucoup dans le déni.
Ah, ça doit être de la fatigue accumulée. Ah, je ne dors pas beaucoup ce temps-ci, j'oublie mes affaires, mais c'est un addon. On dirait qu'on ne veut pas se rendre là.
Fait
hein?
qu'on attend, on attend. Et là, quand on lève la main, souvent, c'est tardivement. Et là, on est dans l'urgence. Et là, l'épuisement des proches aidants puis des personnes autour s'installe parce qu'on est on n'a pas de recours.
Oui.
Hein, parce que dans l'émotion, d'aller sur Internet puis d'essayer de voir toutes les informations, il y en a des informations, il y en a du communautaire, il y en a des organismes qui peuvent aider, mais dans l'émotion, tu les trouves pas.
Non, tu te sens perdu. Puis des fois, quand il y a trop d'informations, c'est comme si on n'avait pas assez. On dirait qu'on ne sait pas où se diriger. J'ai envie, avant qu'on parle de mémo, peut-être de... C'est quoi les premiers signes, les premiers comportements qu'on peut remarquer dans ton expérience chez nos proches? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Parce que moi, ça me fait rire. Là. Des fois, ma mère, ma grand-mère aussi sont pareils. Ils ont le réflexe de... Ah là, j'oublie tout le temps des affaires. Là. Je dois être en train de développer justement un trouble cognitif. Puis on dirait que c'est comme le premier réflexe. Mais tu sais, il ne faut pas non plus paniquer. Là.
Non.
Fait que c'est quoi les les vrais signes, les vrais comportements qu'on peut remarquer puis qui sonnent peut-être une vraie cloche au final?
Oui, moi, je dis toujours aux gens, revenez à la base puis servez-vous de vos yeux, de vos oreilles pour vraiment observer et écouter ce qui se passe. Quand la personne change, hein, que la personne se désorganise puis elle n'avait pas l'habitude de se désorganiser, quand la personne oublie des choses, mais de façon répétée, où il faut vraiment que je compense pour que son quotidien là, devienne plus facile. C'est là où on doit se poser des questions.
Quand on parle de désorganiser, c'est quoi, en fait?
On peut arriver puis se dire, « Ah, la maison, ma mère était... » Je vais prendre ma mère, mais je vais prendre l'histoire de ma mère. Moi, j'ai été proche aidante pendant 12 ans.
Oh boy, OK.
Avec ma mère qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Avec démence vasculaire, okay. Hein, de type démence vasculaire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte vraiment que la maladie s'installait parce qu'elle oubliait des choses, elle se répétait beaucoup, elle modifiait le parcours de ses événements, hein, les mots n'étaient plus là, ou elle changeait vraiment ses explications hors contexte.
OK.
C'était désorganisé. De plus en plus dans son appartement, ma mère a toujours été une femme très propre, très droite, très structurée. Là, on s'apercevait que ces choses se désorganisaient dans l'appartement. Le lavage se faisait moins où elle mettait directement dans la sécheuse.
OK.
Tu comprends?
Fait que c'est vraiment...
Il y a des étapes là, qui skippaient, là.
Des oublis de temps en temps. Bon, tu peux porter attention, puis peut-être ça sonne une petite cloche, mais c'est surtout qu'après ça, c'est pas les oublis en tant que tels, c'est ce que ça cause...
Oui, c'est ce que ça cause. Ce qu'on appelle, c'est vraiment les activités de la vie quotidienne, les activités de la vie domestique. Ce qu'on est habitué de faire, là, ce qu'on faisait depuis longtemps, puis c'était vraiment un automatisme, là, bien là, ça, tranquillement, ça se perd. Puis ça se fait de façon différente. C'est là où on doit allumer une lumière. Oublier, mettre une pinte de lait dans l'armoire au lieu de dans le frigo, puis que ça arrive une fois, ça peut arriver à tout le monde, parce que ça, on a des manques d'attention. Mais c'est la répétition.
Puis une fois que ça arrive, qu'est-ce que tu sais, il y a bien du monde qui doivent se dire, hey, là, moi je l'ai remarqué ce comportement-là, je sais pas quoi faire, là. Qui j'appelle, il y a pas de numéro qu'on a décrit sur notre frigo de où c'est qu'on appelle. Là.
Mm-hmm, tout à fait. Et c'est là que si je peux en venir à l'outil Mémo, c'est pour ça qu'on a sorti Mémo, la boussole de la mémoire. Nous, comme tu l'as nommé, Audrey, en entrée de jeu, Humanité, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire, maladies apparentées, Alzheimer. Et le milieu de vie, bien, c'est sûr qu'on côtoie à chaque jour les proches aidants. Puis les proches aidants font partie de la vie de nos résidents. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui appelle pour dire... J'ai peut-être un problème avec mon parent, avec mon conjoint. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas nécessairement prêt à s'en venir en appartement. Il est dans son domicile. Mais il a besoin d'être guidé par rapport à ça. Il a juste besoin d'être guidé au bon endroit, au bon organisme qui puisse les aider.
C'est une drôle de question, là. Avant de je m'excuse, Nathalie, je te coupe puis on reviendra à mes mots.
C'est parfait.
Y a-tu des tests préventifs que tu peux faire? C'est quoi? En fait, deux questions. Y a-tu des tests préventifs? Puis quand tu as l'impression, justement, que tu te diriges vers là, c'est quoi le type de test qui est effectué pour confirmer que c'est bel et bien ça qui se passe?
Bien, y a des tests préventifs qui existent, qui peuvent être faits, qui sont quand même assez évasifs. Mais par contre, il y a des tests que tu peux faire en appelant vraiment ton médecin si tu as un doute. Le médecin peut te faire des tests. C'est des questionnaires pour voir vraiment comment tu te débrouilles au travers vraiment des questions. Ça peut aller jusqu'à nomme-moi vraiment des personnes publiques. Ils te donnent des images. Tu dois les nommer.
Puis c'est pas un scan, mettons, du cerveau, là?
Non, il peut avoir vraiment des tests qui soient faits chez le médecin.
OK.
La clinique de la mémoire à Québec.
Puis c'est-tu génétique? C'est-à-dire que si, moi, mettons, ma mère a l'Alzheimer, est-ce qu'il faut que moi, je surveille ça en vieillissant?
Bien, moi, en effet, j'ai 50 % de chances de pouvoir avoir la maladie d'Alzheimer.
Puis c'est pas évitable?
C'est pas évitable. Ça peut être organisé de façon différente. Moi, je dis toujours, parce que ça fait quand même 7 ans hein, qu'on a Humanité puis qu'on peut observer. Moi, je suis infirmière de formation, ça fait 30 ans. Je suis spécialisée vraiment dans les troubles neurocognitifs. J'ai une passion de l'être humain, tu sais, pour essayer de comprendre pourquoi important pourquoi ce parcours-là est fait. Je dois te dire qu'avec le maintien, la stimulation, l'occupationnel des gens, ça peut être stabilisé.
OK.
Tu comprends? Ça ne se guérit pas. On le sait. T'sais, ça ne se guérit pas, la maladie d'Alzheimer.
Mais tu peux retarder, si on veut, le côté dégénératif de la maladie.
Oui, puis le parcours, là, le cheminement, là, peut être fait avec d'une façon différente. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, là, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est de continuer de vivre leur passion. De continuer de vivre malgré la maladie d'Alzheimer, puis vivre des beaux moments, là. Tu sais, la musique, là, fait partie, là, d'une activité qui est incroyable pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer parce qu'ils se retrouvent dans leur ancien temps.
OK.
Parce qu'on le sait que la maladie d'Alzheimer, ça régresse hein, dans le temps. Fait que si tu es à 80 ans aujourd'hui, mais que tu as la maladie d'Alzheimer, bien, tu vas reculer dans le temps.
Ça veut dire que, par exemple, tu vas commencer par oublier les deux dernières années, après ça, les 5, les 10, les 20, les...
Tout à okay. fait.
Ça, c'est fascinant. Ma grand-mère est touchée par Alzheimer / démence, puis ouais. Tu sais, là, c'est rendu peut-être trop avancé. Tout, des fois, est un peu flou, mais tu sais, il y a quelques années, t'es capable de nous raconter en détail, dans les moindres détails, des vieilles histoires, mais quand tu passais une demi-heure avec, elle pouvait te poser 6 fois la même question. Mais ce qui s'était passé dans le temps, là, ça, c'est fascinant. Tu te demandes comment que le cerveau peut bien être fait pour que ça arrive.
Tout à fait. Fait que tu le dis, hein, c'est vraiment qu'ils reconnaissent tellement les enfants qui sont de longue date. Ils vont souvent le sortir de façon automatique, mais éventuellement, ils vont perdre l'image de leurs proches. Je vous raconte juste une petite anecdote dans mon cas. Ma mère, on l'a installée dans un endroit, dans son appartement, et on a dû la changer d'endroit pour que ça soit plus facile pour elle. Et à un moment donné, on a mis la photo de mon père sur le mur. Et elle me dit, c'est qui ça? Tu sais, puis avec mon père, elle a été mariée pendant des années. Mais pour elle, elle avait perdu l'image de mon père. C'était un inconnu.
Ah, mon Dieu, que ça
donc, j'ai dû retirer l'image de mon père.
Parce que ça la perturbait?
Ça la perturbait, puis chez elle, ça occasionnait un problème de comportement parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi un inconnu était sur son mur. Et c'est là où les proches aidants doivent énormément s'adapter selon où est rendue la personne dans sa maladie. Parce qu'il ne faut pas la contrarier. Il faut rentrer dans son histoire. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, ça, dans la maladie d'Alzheimer, maladie apparentée.
Mais non, parce que tu dois être déchirée toi-même comme personne. De voyons, maman, c'est pas. Hey.
Tout à fait. C'est des deuils.
Ouais.
C'est drôle ce que tu dis, Audrey, parce que moi, qui ai quand même l'expertise depuis 30 ans, je suis dans le métier. Et quand ma mère a eu la maladie d'Alzheimer et où elle me disait des choses, j'étais portée à dire, ben voyons, maman. Ce que je ne devrais pas faire. Mais je le faisais parce que l'émotion était là, puis c'était des deuils à accepter.
Mais c'est drôle, puis drôle, entre guillemets, là, mais je sais que mon père écoute qui est proche aidant de ma grand-mère, puis j'ai l'image en ce moment de la chambre en ce moment de ma grand-mère où il y a des photos de moi, de mon frère, de ben du monde, de la famille, puis là, je suis en train de me poser la question, à reconnais-tu vraiment tout le monde, puis là-tu ce comportement-là, de se demander, voyons, pourquoi il y a des photos de c'est qui ça? Puis dans certains cas, je sais que ça arrive. Fait que c'est...
Oui, mais moi, j'avais déjà entendu même que tu as des proches aidants qui vont justement en mettre plus de photos puis plus de souvenirs pour essayer de forcer la mémoire à se rappeler, mais tu fais plus souffrir ton... Est-ce que tu fais plus souffrir la personne qui est malade ou tu...
Pas nécessairement. C'est pour ça que, tu sais, en entrée de jeu, je disais, il faut se servir de nos yeux, de nos oreilles, puis de voir le comportement des personnes. Il y en a pour qui, là, ça ne dérangera pas du tout que ça va réconforter. Tout est dépendant vraiment de comment la personne le vit. Donc, c'est pour ça que c'est important, parce que chaque personne est différente hein, dans ses comportements, c'est pour ça que c'est important vraiment d'observer les comportements de l'autre, de voir vraiment est-ce que telle chose, là, puis c'est au quotidien, hein, ça peut changer journalièrement. Là. Ouais. D'une journée à l'autre, là, le comportement peut changer. Fait que c'est important vraiment d'observer et de s'ajuster en fonction de ses réactions.
Est-ce qu'il y a une aide, parce que là, on va parler de Mémo, qui est la boussole de la mémoire, pour aider les proches aidants à je vais utiliser le mot diagnostiquer, sachez que ce n'est pas un diagnostic, là, mais à
reconnaître
merci Max, oui. Les signes. Mais est-ce qu'il y a de l'aide pour les proches aidants? parce que je me dis, et puis je t'écoute parler, là, Nathalie, puis on dit que j'ai le cœur en boîte, parce que moi, c'est ma, je pense que c'est ma plus grosse frousse, pour être bien honnête, d'avoir un, égoïstement, là, d'avoir un proche atteint de cette maladie-là, puis de me rendre compte à un moment donné que, c'est ça, cette personne-là t'oublie toi, oublie tes enfants, oublie ce qu'il y a autour de toi, ça doit être épouvantable, en toute honnêteté, là. Puis je me dis, psychologiquement, ça doit être dur pour les proches aidants de voir quelqu'un que t'aimes dégénérer.
Tout à fait. Puis en fait, moi, j'aime toujours sortir les choses le plus positif d'une situation. Hein. Oui, c'est difficile. Oui, c'est un chemin différent qu'on emprunte. Mais sachez que la maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, il y a encore des beaux moments où les gens peuvent le vivre. Puis tu le tiens en entrée de jeu, Audrey, hein? C'est difficile pour le prochain aidant parce que c'est des deuils. Donc, quand les gens sont vraiment bien outillés, qui sont vraiment bien informés sur la maladie d'Alzheimer pour pouvoir accompagner la personne qui est atteinte, ça en devient plus facilitante. Fait que c'est pour ça que plus rapidement les gens se réfèrent à des organismes ou à des personnes pour pouvoir les aider, mieux c'est dans le processus. Parce que le parcours va être plus facilitant également pour eux.
Mémo, la boussole de la mémoire, qu'est-ce que c'est? Dans quel contexte c'est né, là? Comment vous avez eu l'idée de créer ça?
Bien, c'est né dans le contexte où on avait beaucoup de gens qui nous appelaient, pas nécessairement pour rendre au stand d'héberger leurs personnes, mais surtout parce qu'on fait de l'hébergement et du répit à Humanité. Du répit, c'est qu'ils peuvent venir 2-3 heures pour donner du répit aux prochains aidants, puis que ça puisse permettre vraiment aux prochains aidants de prendre un petit souffle puis dire, bon, bien, j'ai 2-3 heures pour penser à moi. Sauf qu'on avait beaucoup, beaucoup de questions à savoir comment je peux me faire aider. J'ai un doute, là. Tu sais, moi, j'ai un doute. Puis comme toi, il y a des gens qui ne veulent pas faire face à ça, puis qui, tu sais, qui se disent, hey, je suis inquiète, moi, je veux pas que ça arrive à un de mes proches. Donc, ils appellent. Et là, avec le volume d'appels, on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait un besoin de pouvoir guider les gens vers les ressources possibles. Parce que sur Internet, il y a un paquet de ressources possibles, mais c'est difficile, comme on disait d'entrée de jeu, de pouvoir, dans l'émotion, de pouvoir aller chercher les ressources au bon endroit. Donc, cet outil-là va permettre de pouvoir poser des questions sur la situation actuelle vécue, soit par le proche aidant, mais ça peut aussi être par quelqu'un qui a un doute de « Hey, j'ai une perte de mémoire. J'ai-tu... » Il faut-tu déjà que je commence à faire
c'est peut-être plus délicat que d'amener ton proche chez le médecin puis de dire hey, « je pense que tu perds la carte, là ».
Voilà. Fait que ça permet de poser des questions. OK, mémo, là, le boussole de la mémoire permet de se poser des questions sur où on est rendu dans le processus puis ça serait quoi les ressources possibles. Okay. Et nous, on travaille beaucoup, beaucoup en équipe avec les organismes, avec le CIUS de la Capitale-Nationale. Je trouve qu'il faut faire un travail d'équipe incroyable avec le proche aidant puis la personne atteinte pour pouvoir les diriger au bon endroit. Donc, mémo par les questions, c'est 10 questions, hein? C'est 10 clics, en fait, pour par la suite arriver à pouvoir référer les bonnes ressources.
Selon le questionnaire, finalement.
Selon le questionnaire.
C'est quel genre de questions?
Bien, exemple, tu vas avoir au départ, les gens peuvent mettre leur nom, numéro de téléphone, courriel, mais ils peuvent le faire de façon très confidentielle. Les questions vont partir en nommant, bien, est-ce que vous habitez tout seul? Est-ce que vous habitez avec un proche aidant? Est-ce que vous habitez dans une résidence ou autre? Puis par la suite, selon la question, c'est dirigé à d'autres questions qui permettent vraiment de pouvoir connaître le besoin de la personne et de le référer à la fin, vers un résumé de « bien, voici maintenant les ressources où vous pouvez aller selon où vous êtes dans votre processus ».
Puis, est-ce que c'est Mémo, c'est une application, c'est un site web,
C'est une application. C'est vraiment une application.
Qu'on télécharge sur le téléphone.
Bien, en fait, vous allez sur boussoledelamémoire.ca et directement, vous arrivez dans le mémo.
Okay.
Et vous répondez aux questions. C'est facile, hein? Il faut trouver des choses faciles pour que ça puisse être en 5 secondes là, qu'on puisse arriver.
Pas trop engageant.
Pas trop engageant.
Je terminerai, Nathalie, en te questionnant sur une nouvelle qui est sortie la semaine passée. Là, Québec qui a présenté sa nouvelle politique nationale de soutien à domicile. Puis là-dedans, un élément fort, c'est la rémunération qui pourrait être offerte pour les proches aidants jusqu'à 21 $ de l'heure. Puis là, évidemment, il y a des conditions, tout ça. Est-ce que c'est un bon pas vers l'avant, ça?
Je pense que c'est un bon pas vers l'avant. Un autre pas qui à mon avis, pourrait être fait, c'est vraiment de reconnaître encore plus tous les organismes et les milieux privés pour pouvoir être dans le processus, pour qu'on puisse encore mieux aider tous ensemble les proches aidants dans le processus du continuum des soins. Parce que le continuum des soins part du domicile, de son domicile à lui, mais peut. Il y a une transition à faire éventuellement, puis il faut bien accompagner les gens là-dedans. Et surtout au bon moment, justement, pour pas que ça soit fait dans un moment d'urgence, mais graduellement.
Nathalie Paré, présidente du groupe Patrimoine et cofondatrice de Humanité, merci beaucoup. Super
merci.
Intéressant. Puis je sais, il y a des textos qui rentrent, là, puis ça touche pas mal de monde. Je racontais l'histoire de ma famille, avec mon père, ma grand-mère, tout ça. Donc, je sais que ça touche pas mal de monde. Merci beaucoup.
Merci Audrey. À vous.
Au retour, Pascal CV va venir faire son tour. On s'offre aussi un petit moment du pit stop de ce matin avec Denis Gravel, où il y a eu débat quant à l'histoire Gavin McKenna, puis aussi Denis Gravel qui s'est fait honte à lui-même en racontant une histoire. T'as-tu pogné ça, matin, Audrey?
Je l'ai pas pogné, fait que je suis curieuse, mais je sens qu'il va nous le raconter cet après-midi.
C'est sûr, et c'est tellement gênant, là.
Ah oh, ouais.
Ouais? Restez là dans les prochaines minutes, soyez là dans le retour aussi pour entendre ça. C'est,
il rit, c'est, là, je vais écouter.
Non, c'est gênant. Puis on fait un petit tour de news aussi. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.